France Inter, le 18-20.
C'est la question taboue parce qu'elle implique, parce qu'elle parle d'un choix radical, d'un choix fondamental, parce qu'elle parle d'avenir de l'humanité. C'est un sujet tabou au point qu'après chaque grande réunion mondiale, après chaque COP liée donc à l'environnement, on n'en parle pas. Trop compliqué, peut-être trop difficile. Et pourtant, des scientifiques, des groupes de citoyens, et vous aussi, puisque la question revient souvent dans le téléphone sonne quand on parle d'écologie. Bref, de plus en plus souvent, on pose la question du lien entre démographie et écologie. En clair, faut-il arrêter de faire des enfants, faut-il réguler les naissances dans le monde si on veut réussir la transition écologique et aller plus loin? Peut-on réellement sauver la planète quand nous serons 8 milliards, 10 milliards, bientôt peut-être plus? Comment mettre en place des programmes de baisse de la fécondité? Faut-il mettre en place des programmes de baisse de la fécondité? Et on parle de quel pays exactement? Est-ce que ça a du sens dans nos sociétés d'arrêter de faire des enfants? Ou est-ce qu'on parle exclusivement d'éducation à la contraception, notamment dans les pays au taux de fécondité les plus hauts? Quel est donc ce mouvement qui veut sauver la planète en réduisant notre propre espèce? Et attendez, moi je pensais justement que le problème aujourd'hui c'était la dénatalité, que justement on faisait plus assez d'enfants, que la population déjà était en baisse au Japon, en Corée, en Espagne, en Italie et ailleurs. Ça va être passionnant de discuter tout cela avec vous, c'est maintenant, soyez les bienvenus au téléphone sonne.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Didier, bonsoir, c'est vous le premier et soyez le bienvenu.
Bonsoir, merci de m'accueillir. Oui, je voulais en particulier poser une question sur les liens entre écologie et démographie, sur l'aspect particulier qui est le déclin de la biodiversité. Les rapports s'accumulent sur la diminution du nombre d'animaux et du nombre d'espèces, il y en a encore eu un très récemment, et presque jamais on ne fait le lien entre l'expansion du nombre des hommes et de toutes les structures qui vont avec, et puis la disparition quasiment de tous les espaces. On parle du réchauffement climatique, mais à ma connaissance, le demi-degré ou le degré qu'on a gagné, ce n'est pas lui qui a éliminé les rhinocéros, les lions et tous les grands animaux. Donc c'est bien l'expansion du nombre des hommes. Alors je vais vous demander à vos invités, et peut-être en particulier à M. Berthaud, quel est à son avis ce lien et d'autre part, pourquoi on n'en parle pas?
Eh bien écoutez Didier, merci beaucoup parce qu'au moins vous nous permettez une entrée en matière qui est pile dans le sujet. Et pour répondre à votre question, pour discuter ensemble jusqu'à 20h, Jean-Loup Berthaud est là donc. Bonsoir Monsieur Berthaud, vous êtes
bonsoir.
Directeur de recherche au CNRS, vous avez écrit « Démographie, climat, migration, l'état d'urgence » et publié chez Fauve, c'était publié en 2017, ça reste évidemment d'actualité. Bonsoir Gilles Pison.
Bonsoir.
Vous êtes professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, vous êtes chercheur associé à l'INED et vous avez vous écrit en 2019 chez Autrement, l'Atlas de la population mondiale. Puisque vous avez été interpellé par Didier, Jean-Louis Berthaud, lui, il fait le lien entre hommes et biodiversité, mais au fond, est-ce qu'on sépare? Est-ce qu'on parle seulement de la biodiversité? Est-ce qu'on parle aussi, justement, du réchauffement climatique que notre ami auditeur a mis de côté? Est-ce qu'on met tout ça dans un tout en se posant la question, effectivement, de la démographie à côté?
Je pense que ce sont deux problèmes qui sont un peu liés, mais pas très tellement liés que ça. Les deux problèmes sont, disons, le changement climatique qui est dû à notre combustion des fossiles et l'atteinte à la biodiversité. Et en fait, il y a deux organisations qui émanent de l'ONU. Vous avez entendu parler du GIEC
Bien
ou
sûr.
Du IPCC, mm-hmm. mais il y a une autre organisation qui s'est mise en place, qui s'appelle l'IPBES, et qui s'inquiète beaucoup de l'atteinte à la biodiversité. Mm-hmm. Et ils ont bien identifié que la cause principale de l'atteinte à la biodiversité, c'est l'explosion démographique qui s'est déjà produite et qui continue de se produire et qui va continuer.
On grappille l'espace, en gros, des autres espèces.
C'est l'idée. Ben oui, on artificialise les sols partout et notre nombre, on s'étale partout et donc on tue les autres espèces, en fait.
Là, pour le coup, Gilles Pison, au moins sur le constat de notre étalement au détriment des autres, est-ce qu'on est d'accord là-dessus tous ou pas?
Là, on peut peut-être nuancer ce qui vient d'être dit. Parce que est-ce que c'est vraiment le nombre des hommes qui pose problème ou c'est la façon dont ils vivent? Il faut savoir que si on parle de biodiversité, le gros de la régression, il est venu d'abord du milliard d'habitants qui vit dans les pays riches. C'est donc une petite minorité. Mmh. Et encore maintenant, c'est la façon de vivre de cette minorité qui pose les plus gros problèmes. Et donc, si vous voulez, quel est le bon nombre pour vivre sur la planète en ménageant la biodiversité, en évitant qu'elle s'érode trop, en ménageant aussi le climat pour qu'il ne change pas trop? Est-ce que c'est vraiment une question du nombre des humains? Là, on est presque 8 milliards,
ouais.
On devrait être
7,
10 milliards en 2050. Ou est-ce que c'est la question de la façon dont les humains vivent? Et je pense que le rapport du GIEC ne pointe pas la démographie et la croissance démographique comme le problème. Il pointe principalement sur la façon dont nous vivons.
Hein. Alors j'ai deux questions après ce que je viens d'entendre de part et d'autre. D'abord, est-ce que la raison pour laquelle le GIEC ne le pointe pas, parce que c'est vrai effectivement que c'est une question qu'on a l'impression d'avoir mis de côté, est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué, en gros, qu'on n'y va pas sur ce terrain-là, ou est-ce que c'est effectivement, comme le dit Gilles Pison, Jean-Louis Berthaud, parce que effectivement le vrai problème, c'est pas combien nous sommes, c'est comment nous vivons.
Écoutez, là,
on peut dire les deux, mon capitaine,
oui,
cela
oui,
dit. Hein.
Il y a ce qu'on appelle le jour du dépassement. Je pars à partir du jour du dépassement qui a été pointé par WWF France. Le 1er août 2018, on avait atteint le jour du dépassement.
Ça veut dire qu'on est au jour du dépassement européen à la fin de la semaine.
Oui, mais ça, c'était pour au niveau de consommation français. Mais là, au niveau de consommation mondiale, on l'avait atteint le 1er août. C'est-à-dire qu'en 213 jours, on avait consommé tout ce que la planète peut produire en un an et on l'avait pollué de tout ce qu'elle peut absorber. Et tout ça, on l'avait fait en 213 jours. Alors, il y a deux interprétations possibles. Soit on a consommé 42% en trop, chacun d'entre nous, soit on est 42% de trop. Et donc, en fait, il y a deux approches différentes pour réagir à ça, pour rétablir l'équilibre. La première idée, c'est la frugalité. Donc, il faut réduire chacun d'entre nous, la consommation de chacun d'entre nous. La deuxième stratégie, c'est de réduire le nombre. Bon, mais en fait, pour revenir, par exemple, à la question que vous avez posée, le GIEC, moi, ça, je m'insurge depuis déjà 15 ans du fait que les climatologues ne crient pas, ne tirent pas la sonnette d'alarme. Ils commencent à le faire, mais de façon trop prudente, à mon avis.
Ça veut dire que les climatologues et les démographes ne se parlent pas, en fait.
Ça n'est pas, je ne pense pas que ça soit ça, parce que mais écoutez, je vais vous donner le fond de ma pensée.
Allez-y.
C'est que, en fait, quand on regarde les indicateurs, on comprend bien que le problème se passe surtout en Afrique. Il va y avoir 4 milliards de plus d'humains sur Terre d'ici 2100, et sur ces 4 milliards, il y en a plus de 3 milliards qui seront en Afrique. Donc le problème, il est en particulier en Afrique. Et donc, si vous commencez à pointer l'Afrique, eh bien à ce moment-là, on va vous traiter de raciste. Je pense que ça a été un élément très important pour dire que les climatologues se restreignent. Il y a un autre aspect, c'est qu'il faut comprendre que le GIEC, c'est un organisme intergouvernemental, et donc il faut aboutir à un consensus en beaucoup de pays. Et donc, c'est très très délicat de pointer du doigt des pays qui ont une trop forte natalité.
Même chose autour des COP, d'ailleurs, il y a beaucoup de pays pour se mettre d'accord, c'est ça qui rend les choses très compliquées. Cela dit, vous avez parlé de l'Afrique, moi j'ai des chiffres qui disent que la moitié de la croissance de la population planétaire est concentrée sur 9 pays, l'Inde, le Nigeria, le RDC, le Pakistan, l'Éthiopie, la Tanzanie, les USA, l'Ouganda et l'Indonésie. Donc les torts au fond sont partagés. Avant de retourner au standard, est-ce que le nombre, est-ce que ça doit être extrêmement compliqué de répondre à cette question, est-ce qu'on est capable de dire en l'état des ressources aujourd'hui, au moment où on se parle, le chiffre max de population ne pourrait pas excéder, j'en sais rien, 12 milliards, 13 milliards, 14 milliards. On est capable de dire ça ou pas scientifiquement?
Alors, je trouve que ça, c'est la Gilles question Pison. De départ. Hein. Quel est le bon nombre sur la planète pour vivre correctement? Eh bien, il n'y a pas de réponse. Pourquoi?
Parce que
tout
ça dépend
de la... Non, tout dépend de la façon dont les humains vivent. Un milliard d'humains qui vivent de la façon dont vivent les Européens ou les Américains du Nord ou les Japonais, ça n'est pas durable. Mais 10 milliards d'humains qui vivent de façon en économisant, en consommant moins les ressources, en consommant moins d'énergie, en se souciant mieux de la planète, c'est possible. Et de toute façon, l'humanité n'a pas le choix. Nous sommes près de 8 milliards. Nous serons 10 milliards ou autour de 10 milliards en 2050. On ne va pas y échapper. Comment l'éviter? En tuant une partie de l'humanité?
Ça ne me paraît pas être la solution.
En envoyant une partie de l'humanité sur Mars?
Non plus, pas tout de suite.
En ayant de moins en moins d'enfants, en réduisant... C'est déjà ce qui se passe. Vous savez que la moyenne de la fécondité, elle est de 2,5 enfants par femme aujourd'hui. C'était le double 5 enfants il y a 50 ans.
Alors moi,
D'année en année... Les humains ont de moins en moins d'enfants.
Alors moi j'ai lu, vous allez me dire si je me trompe, parce qu'on peut aussi lire beaucoup de choses, que en gros on est à l'équilibre, si je puis dire, si on est à moins de 2 enfants par femme. Ce qui n'a pas de sens en soi, effectivement, à l'échelle du monde, hein, j'entends ça, Jean-Louis Berthaud, mais d'où sort ce chiffre,
Écoutez, c'est assez simple, parce que moins de 2 enfants par femme, ça veut dire que statistiquement, vous avez une fille sur deux. Donc, une femme, une fille. Donc ça, on peut comprendre que ça se stabilise. Ça. Donc, si vous avez moins de 2 enfants par femme, la population va baisser, et c'est ce que je préconise très fortement. Et donc, je pense que, un peu, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Gilles Pison, je pense qu'on peut agir sur la démographie. Il faut bien savoir qu'une différence de 1 milliard de personnes en 2100, ça serait très, c'est très important. Selon qu'on ait 1 milliard de plus ou de moins, c'est très important pour le changement climatique et pour la biodiversité. Alors, donc, on peut agir.
Et d'ailleurs, il faudra préciser que aujourd'hui, en moyenne, en Asie, les femmes ont 2,1 enfants en moyenne chacune. C'est le seuil de remplacement des générations. C'est pas moins de 2, c'est 2 qui permet l'équilibre. Les latino-américaines, elles en ont moins de 2,1, elles ont 2 enfants en moyenne. Les américaines du Nord, 1,8. Les européennes, 1,6. Donc, tous les continents sont dans une situation où, à terme, la population n'augmente plus, voire diminue.
Alors, agir sur la démographie, c'est Jackie qui va nous aider à poursuivre le débat dans ce sens-là. Bonsoir, Jackie.
Bonsoir, Fabienne. Bonsoir, France Inter, les invités. Alors, écoutez, presque tout a été dit là rapidement dans le résumé de vos invités. Effectivement, la démographie galope et les ressources de la Terre sont finies. Donc, on va taper dans les stocks de plus en plus pour nourrir une part grandissante de la population sur Terre, ce qui est mathématiquement impossible. Donc, sans aller vers le comportement malthusien qui prône une façon très très dure de réduire la population, mais je parlerai du malthusianisme de Thomas Malthus, qui est un économiste britannique, donc c'est pas un enfant de cœur non plus.
Bah, c'est mon vieux Malthus qui a beaucoup beaucoup déjà servi, mais allez-y, pardon, Jackie.
Voilà. Bon, qui prenait effectivement pas la réduction, mais le contrôle des naissances sur la Terre pour pouvoir donner des ressources à tous les habitants de la Terre. Et effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui, alors ma question va être portera sur le côté libéral de la façon philosophique de conduire la société aujourd'hui, comme on le voit dans les sociétés développées. Est-ce que c'est bien raisonnable d'aller vers des politiques qui prônent la croissance comme la croissance démographique, puis la croissance financière, une croissance à tout va comme un totem, et au vu des difficultés et des dangers qui s'annoncent pour les générations à venir, parce qu'ils sont très importants, on en rappelle aujourd'hui de plus en plus l'importance, et vous en faites votre part, France Inter, et bravo, mais est-ce que c'est raisonnable de laisser à l'avenir des enfants arriver sur une planète où les ressources vont manquer, où ça va être terrible? Je voudrais ajouter quelque chose.
Allez-y.
Il y a quand même une dichotomie dans la façon de traiter ces sujets aujourd'hui. Moi, je suis un passionné, j'ai 60 ans. Donc, j'ai fait de la moto, j'ai fait de la voiture, et j'ai ma part de pollution, et je l'admets. Mais malgré tout, aujourd'hui, on voit des émissions, le dimanche matin, Automoto, M6 Turbo, etc.
C'est pas prenez chez nous,
des
ça.
Des voitures de 300 chevaux, des voitures de 400 chevaux. On vient d'entendre aux informations Renault qui falsifie avec bien d'autres les émissions de gaz à effet de serre. Donc, est-ce que c'est bien raisonnable cette croissance à tout va qui veut toujours, pour modèle économique, une croissance que la Terre ne sera pas en mesure de supporter?
Merci beaucoup. Merci. Jackie, vous avez prononcé le mot-clé, effectivement, le mot croissance, entre croissance économique et croissance démographique. Faut-il renoncer à l'un pour aider l'autre et inversement? Faut-il arrêter les deux à la fois? J'ai vu que vous vouliez réagir au moment où on parlait de Malthus, d'ailleurs, peut-être, non, Gilles Pison?
On peut revenir à Malthus, mais le sujet là que vous rappelez, voilà, est-ce qu'il faut choisir ou est-ce qu'il faut...
Ouais.
En fait, pourquoi les experts du GIEC ne parlent pas de la population? C'est parce que il est illusoire de penser pouvoir arrêter la croissance démographique et donc figer le nombre des humains à la situation d'aujourd'hui. À court terme, alors pour un démographe, le court terme, c'est une génération d'ici 30 ans. Et pourquoi? On le disait tout à l'heure, dans la plupart des régions du monde, les humains, les couples ont choisi d'avoir peu d'enfants parce qu'ils savent bien et leur objectif, c'est d'investir pour que leurs enfants aient des diplômes, aient un bon travail, aient une vie meilleure qu'eux. Et les humains savent bien que c'est pas possible en ayant 6 enfants. Et donc, partout, la taille des familles a été réduite. Mais, sauf l'Afrique, on pourra en parler, mais il n'en résulte pas un arrêt immédiat de la croissance parce que la population mondiale comprend une partie importante de jeunes adultes en âge d'avoir des enfants, même si chacun n'en a que 2, voire moins. En Chine, c'est 1,6 enfants en moyenne par femme. La population continue d'augmenter parce que il y a beaucoup de ces jeunes adultes, donc ça fait beaucoup de naissances, plus que de décès. Par ailleurs, il y a peu de personnes âgées ou très âgées sur la planète. C'est les âges où l'on meurt aujourd'hui. Et donc, il y a peu de décès. Donc, vous avez plus de naissances que de décès. Et donc, il est illusoire de penser pouvoir passer à côté d'un surcroît de 2 à 3 milliards d'humains d'ici 2050. Et on ne peut pas jouer sur ce levier-là, en tout cas pas immédiatement. Et c'est pour ça que ça amène les experts du GIEC et d'autres experts à expliquer qu'il faut jouer sur les leviers sur lesquels on a une action tout de suite, parce que c'est tout de suite, il faut réduire notre consommation d'énergie, de ressources, notre production de gaz à effet de serre, et il ne faut pas attendre, et on ne peut pas attendre. Pour arrêter la croissance démographique, c'est déjà en cours. La croissance se poursuit à un rythme qui décélère d'année en année. Il faut savoir qu'on était 1 milliard seulement il y a 2 siècles.
Alors, Jean-Louis Berthaud, là-dessus, est-ce qu'on peut figer effectivement une population, c'est compliqué. Jusqu'à quel point on peut effectivement, si avec une politique d'éducation, avec une politique de contraception, comment ça marche? Est-ce qu'on peut effectivement faire réellement décroître une population ou pas?
Écoutez, regardez l'exemple de la Chine, par exemple, qui a imposé l'enfant unique,
a eu
un développement économique extraordinaire. Donc il est faux de dire que moins d'enfants, c'est mauvais pour l'économie.
Mais sauf qu'aujourd'hui, la Chine est en train d'y revenir. C'est assez intéressant
changé,
parce que désormais on a le droit, mais la population, elle, ne suit pas, en fait. C'est ça qui est très intéressant.
C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que maintenant, ils ont libéralisé le nombre d'enfants, mais en fait, ils n'en font pas plus parce
Absolument.
Qu'ils se sont habitués, ils ont un tel niveau économique. La Chine était le 15e rang mondial il y a 25 ans et c'est devenu la deuxième puissance économique du monde. Donc, grâce à cette politique démographique dénataliste, ils sont arrivés en deuxième derrière les États-Unis. Je voulais dire à propos de Malthus.
Allez-y.
Oui,
sacré Malthus.
Que c'est pas parce que Malthus a eu raison trop tôt qu'il aura eu tort pour l'éternité. Et enfin, je voudrais reprendre quelque chose à propos de la croissance.
Oui.
Il faut comprendre que ce qu'on appelle la croissance du PIB, c'est la somme algébrique, c'est-à-dire des plus et des moins, de la croissance démographique et de la croissance du PIB par tête d'habitant. Le confort, c'est en fait lié à la croissance par tête d'habitant. Mais tandis que la croissance démographique, c'est pas bon pour personne. Par exemple, en 2014, la France a fait 0,4% de croissance. Mais là-dessus, elle avait un accroissement démographique de 0,5%. Donc en fait, elle avait une récession de moins 0,1% du taux de croissance du PIB par tête d'habitant. Et donc c'était pas bon du tout. Donc en fait, la croissance démographique, malheureusement, est aussi poussé par tous les économistes parce qu'ils disent plus il y a de gens, plus ça consomme et plus l'économie marchera. Mais en fait, c'est au détriment de toute la planète.
Jeanne, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue Jeanne, vous avez 20 ans.
Oui, c'est
Quelle
ça,
chance.
J'ai 20 ans. Donc, donc j'entre dans la classe d'âge que vous décriviez, des jeunes adultes qui
sont susceptibles de faire des enfants.
Voilà, mais moi j'ai décidé, c'est qu'une décision pour l'instant, je pourrais encore, voilà, mais j'ai décidé de pas avoir d'enfants à moi, si je puis dire, enfin si je dois en avoir, ce sera en adoptant ou en me mettant en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants, mais je...
Vous ne voulez pas rajouter sur la planète, en gros, c'est ce que vous dites.
Voilà, j'imagine que de toute façon, on ne peut pas non plus arrêter de se reproduire. Enfin, c'est quand même le but de la vie, c'est de continuer. Donc, on ne peut pas non plus arrêter de faire des enfants. Mais bon, autant, je me dis que ce sera aussi bien si je prends ceux que les autres ne peuvent pas, ne peuvent pas garder.
Et la raison, Jeanne, est-ce que c'est parce que écologiquement, vous vous dites qu'il n'y a pas la place et qu'ils ne vivront pas dans des bonnes conditions, y compris des bonnes conditions écologiques autour d'eux, c'est-à-dire même de santé, ou est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas mettre au monde un enfant dans le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui? Ou les deux, mon capitaine, décidément.
J'imagine que ça pourrait être un peu des deux, mais c'est surtout que avoir un enfant... je veux dire, si je dois en adopter un, donc ce sera, j'aurai un enfant qui vivra dans le monde tel qu'il est. Donc je sais que les enfants futurs seront exposés à un monde qui est sans doute bien pire que ce qu'on peut avoir maintenant. Mais c'est avant tout pour pas rajouter quelqu'un qui, c'est doubler son empreinte écologique d'avoir un enfant. Donc même si on en fait un parfait petit écolo, c'est quand même et quelqu'un qui va vivre et manger et se déplacer, donc enfin c'est je me dis que je peux faire ça. Enfin, j'ai la chance, si je peux appeler ça une chance, d'être homosexuelle. Donc, a priori, je tomberai pas enceinte par hasard. Donc,
non, mais il y a plein d'autres manières d'avoir des enfants, voilà, même quand on est gay, Jeanne. Donc...
Mais bon, je veux dire que ça, c'est... Je vais profiter du fait de pas pouvoir tomber enceinte accidentellement pour ne pas le faire.
Et merci.
Et voilà, et plutôt adopter.
Et merci beaucoup pour ce témoignage, Jeanne. Moi, ce qui me frappe, Jean-Louis Berthaud, parce qu'elle n'est pas toute seule, Jeanne, à voir ce raisonnement-là, on commence à le voir beaucoup fleurir dans nos sociétés. La question que je me pose, c'est, je vais le dire comme ça, est-ce que Jeanne, dans une société telle que la nôtre aujourd'hui, est-ce que son raisonnement à elle peut nous servir écologiquement parlant, au fond, ou est-ce que réduire notre natalité, nous, dans nos pays à nous, a un sens par rapport à ceux qui sont à un plus haut taux de fécondité. Je ne suis pas sûre d'avoir été claire. Est-ce que j'ai été...
Vous posez la question. Est-ce que ça vaut la peine de réduire notre natalité chez nous alors que le problème est ailleurs. Écoutez, franchement, là-dessus, j'ai aussi une opinion assez tranchée, à savoir que depuis 1945, on vit dans une politique nataliste en France, hein, et donc qui encourage énormément la natalité, mais que elle a été fondée sur le syndrome de la défaite de 1940. On a dit c'est parce qu'il n'y avait pas assez de Français pour les envoyer à la boucherie. Mais en fait, maintenant, ce raisonnement n'a absolument aucune raison d'être. Donc parce qu'on est dans une Europe qui nous protège, il n'y aura plus de guerre. Donc cet argument, je dirais. Même en France, il faut abandonner la politique nataliste.
Pardon, allez-y, Gilles Pison.
Oui,
parce que j'en ai une. Oui.
Je veux dire à Jeanne, comme je veux dire à beaucoup de personnes qui me posent cette question, des jeunes comme elle, qui sont angoissés parce qu'ils se disent est-ce que je peux faire des enfants, vu l'État.
La question, c'est est-ce que j'ai le droit, même souvent. Est-ce que j'ai le droit.
Eh bien, je veux dire à Jeanne et aux autres Jeannes, il y en a beaucoup, et aussi aux hommes. Parce que s'il y a des hommes qui me posent la question, voilà. Si vous ne voulez pas avoir d'enfants, n'en ayez pas. Si vous voulez en avoir, ayez-en et le nombre que vous souhaitez. Dans nos sociétés, très peu de gens souhaitent avoir 6-10 enfants. En général, on veut 1, 2, 3 enfants. La moyenne en France est autour de 2 enfants.
Ouais.
Mais je leur dis en plus, faites en sorte pour que les enfants, pour ceux qui en veulent et qui en auront, eh bien, ils ont un comportement responsable.
Donc, faisons des parfaits petits écolos, comme disait Jeanne tout à l'heure.
Vous-même, et les enfants qui sont déjà nés, mais éduquez-les pour qu'ils aient un comportement frugal, qui ne pèse pas sur le climat. Et les adultes, et vous-même, mais mettez-vous-y, et tout de suite.
Alors,
en revanche, si vous souhaitez avoir des enfants, mais ayez-en. Donc, je crois qu'il faut déculpabiliser les jeunes d'aujourd'hui qui souhaitent avoir des enfants. Pourquoi pas ? Ils peuvent les avoir, mais qu'ils s'arrangent pour que demain, et dès maintenant, eux-mêmes ne pèsent pas autant qu'aujourd'hui sur le climat.
En toute chose, effectivement, ne culpabilisons pas les gens dans un sens comme dans un autre. Moi, il y a une chose qui m'intrigue. Si on regarde, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, nous sommes les plus hauts responsables des émissions de gaz à effet de serre dans nos pays qui ont les taux de natalité les plus bas. Donc, au fond, est-ce que il n'y a pas un énorme paradoxe là, effectivement, c'est nous qui faisons le moins d'enfants qui polluons le plus, quand même, non?
Ça montre bien que c'est pas la question du nombre, c'est la question des modes de vie.
Là-dessus, Jean-Louis Berthaud.
Oui, disons qu'il y a une étude scientifique qui vient de paraître qui considère qu'est-ce qu'on peut faire quand on est soucieux de l'environnement pour faire des économies de CO2. Et donc, ne plus manger de viande, on gagne pour une famille 0,8 tonnes par an.
J'ai vu ce graphique, il est affiché dans notre bureau. Effectivement, la ligne ne faites pas d'enfants.
Se passer de voiture 2,4 tonnes par an, avoir un enfant en moins, ça va entre 20 à 120 tonnes de CO2, c'est-à-dire en moyenne 60 tonnes par an. Donc, avoir un enfant de moins, c'est le geste le plus écologique
qui soit. Mais vous savez, le plus écologiste, c'est de se suicider.
Oui,
aux gens de se suicider. Mais c'est pour montrer un peu l'inanité de ce genre de tableau et de figure où on met ensemble des choses, des carottes, des lapins. Ça n'a pas de sens. C'est pas du même ordre.
Après, ce qui vient derrière, c'est en gros, nous sommes donc nous responsables, les vrais responsables des problèmes climatiques aujourd'hui. Ce sont les entreprises, c'est le charbon à outrance, c'est les voitures que nous conduisons, effectivement, etc. Donc faut-il nous rejeter la faute à nous, au fond, nous humains, dans notre manière de vivre, quand au fond, le comportement a changé, c'est celui de l'entreprise qui fabrique, la manière de, entre autres, pas seulement évidemment, mais la façon dont elle le fabrique, etc. En fait, est-ce que nous sommes nous en train aussi de payer un prix extrêmement lourd, en fait?
Quand on parle des entreprises,
en décidant de ne pas avoir d'enfants, de pas faire d'enfants, je veux dire,
on paye un tribut lourd, mais c'est parce que on a. Écoutez, le problème du changement climatique, il est apparu récemment. Il y a, disons, il y a 30 ans, on n'en avait pas conscience. On n'avait pas conscience qu'en brûlant tous les combustibles fossiles, on allait changer la planète dans la mauvaise direction.
Mais ça avait commencé avant, il y a 30 ans.
Oui, il avait commencé le changement climatique.
C'est vrai que c'est le fait du milliard d'habitants qui vit dans les pays riches, mais on peut pas revenir en arrière. On est aujourd'hui avec ce niveau de gaz à effet de serre et il augmente. Et je dirais que c'est d'autant plus important de changer nos modes de vie et pas forcément de ne pas avoir d'enfants qu'on souhaite avoir, parce qu'on sert de modèle, nos modes de vie servent de modèle à toute la planète. Et si nous arrivons à changer et rapidement nos modes de vie, on aura un effet non seulement chez nous mais aussi dans le reste du monde.
Alors j'ai mangé un peu la question de Sam. Bonsoir Sam.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, en fait, c'était une question un peu constat aussi au niveau de la démographie, de la croissance démographique. On dit qu'en Afrique, il y a une très grande croissance démographique, que les familles font beaucoup d'enfants, alors qu'en dans les pays développés comme les pays de l'Europe ou les États-Unis, on fait beaucoup moins d'enfants. Mais dans quelle mesure, nous, occidentaux, qui avons eu un impact écologique très fort, pouvons-nous nous permettre de faire la morale à l'Afrique, alors qu'un petit Africain aujourd'hui n'a pas du tout le même impact écologique qu'un petit Européen?
Jean-Louis Berthaud.
Bah oui, j'ai dit qu'il fallait aussi qu'on fasse moins d'enfants dans les pays développés. Et une des raisons, c'est pas la seule, une des raisons, c'est qu'effectivement, moralement, ça serait un peu malsain de dire aux pays africains faites moins d'enfants, tandis que nous, on continue à en faire. Donc c'est une des raisons pour lesquelles. Alors, je voudrais rebondir sur l'Afrique, si c'est possible. Il y a eu quand même la conférence de Ouagadougou, où tout d'un coup, il y a 17 pays, c'est-à-dire les 15 pays de la CDAO, plus Tchad et Mauritanie, qui ont adopté une charte en disant, d'ici 2030, il faut que le taux de fécondité soit inférieur à 3 enfants par femme. Ça, c'est formidable, ça. À partir du moment où c'est eux qui le disent, c'est pas raciste de les aider. Et donc, nous avons préconisé dans une tribune au Monde qu'il faut aider tous ces pays africains à mettre en place les systèmes de planning familial, de santé reproductive, qu'on appelle, pour essayer de diminuer leur démographie, qui est à 4,9 enfants par femme pour l'instant.
Dans nos sociétés à nous, est-ce qu'on sait combien de temps, comment j'ai posé cette question, combien de temps on peut rester, on est des populations qui sont déjà vieilles. Si on fait beaucoup moins d'enfants, on sera des populations qui seront encore plus vieilles. Donc jusqu'à quel point est-ce qu'on peut rester une population de vieux qui aura cessé de se fabriquer finalement?
Alors, il ne faut pas faire de catastrophisme non plus avec ce phénomène
si on fait moins d'enfants,
qu'on appelle de vieillissement démographique, qui est la simple conséquence du fait qu'on vit plus longtemps et aussi qu'on fait moins d'enfants qu'il y a deux siècles. Vous savez qu'il y a deux siècles, on avait 5-6 enfants aussi en Europe, en Amérique du Nord. Donc la fécondité a beaucoup baissé. La mortalité aussi.
Il y avait une injonction à faire des enfants à l'époque,
c'est que la répartition par âge de la population a changé dans le sens de vieillissement démographique. Mais pour l'instant, on vit plus longtemps et on vit plus longtemps en bonne santé, dans la plupart des cas. Et donc, faut aussi, c'est des défis, mais c'est pas une catastrophe en soi. Et on va pas revenir au XVIIIe siècle où dans nos pays, on avait une population très jeune, mais où on vivait 25 à 30 ans en moyenne. Mais c'était l'espérance de vie à la naissance.
Le sens de ma question, c'est si le taux de croissance devient négatif, le taux de natalité devient négatif, donc que la population mondiale décroît, jusqu'à quel point c'est problématique ou pas?
Alors justement, j'ai une réponse à cette question.
Allez-y.
D'ailleurs, j'ai trouvé dans une étude de Guillaume Duval, à Alternative Économique. Disons que dans les scénarios de croissance de l'ONU, on arrive à 11 milliards en 2100. Il y a un scénario bas qui pointe à un maximum de 8 milliards, mais qui redescend plus tard. Et ben, dans le scénario très haut, et la population active, c'est les 25-64 ans, par rapport au reste, est de 48%. Dans l'autre scénario, il y a une décroissance à partir de 2050, ce taux-là est de 47%. Donc, du point de vue de la population active, il n'y a absolument aucune catastrophe. C'est marginal. Donc, simplement, dans cette population décroissante, il y a un peu moins de jeunes. Bon, ben d'accord. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le dividende démographique, qui a été très bien compris par Nicolas Méda, qui était le ministre de la Santé du Burkina Faso.
Bonsoir, Pierre.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, Pierre. On vous écoute.
Oui. Excusez-moi, c'est un côté un peu catastrophique.
Oui, c'est vrai, mais bon, restons optimistes.
Restons optimistes. Je crois que c'est le message essentiel à faire passer. Non, je disais tout à l'heure, moi je suis grand-père, père, j'ai plusieurs enfants. S'il fallait le refaire, je suis pas sûr de refaire trois enfants. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que notre fille qui a 22 ans, elle a clairement dit les choses en disant qu'elle n'aurait pas d'enfant, ce qui ne manque pas de créer des débats avec son frère aîné qui va être père, lui, pour la deuxième fois. Mmh. Donc,
Et qu'est-ce que vous répondez, vous, à vos enfants, y compris quand vous leur dites « si c'était à refaire aujourd'hui, peut-être que l'un de vous trois ne serait pas là. En tout cas, je ne l'aurais pas fait. » Ça génère quel genre de discussion chez vous? Rassurez-les, vous allez les garder quand même, mais quand même.
Oui, j'ai essayé de les abandonner quand ils étaient petits.
Bah oui, ça n'a pas fonctionné. Comme tout bon parent.
Voilà, comme tout bon parent. Non, je crois que j'essaye d'être le plus intègre possible avec eux par rapport aux conditions de vie. Et c'est vrai que mes conditions de vie à moi ont été absolument extraordinaires. Mmh. Et j'aspire, comme tout parent, à pouvoir offrir les mêmes conditions de vie à mes enfants. Le gros travail, c'est vraiment leur expliquer la nécessité, l'absolue nécessité de fonctionner autrement. Mmh.
Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, Pierre. Effectivement, ça rejoint, pour le coup, là-dessus, on est tous d'accord, ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure. Tiens, je voudrais vous soumettre à votre sagacité ce mail sur franceinter.fr. Oui, il faut freiner la surpopulation et ce sont aux populations les plus éduquées d'accepter ce sacrifice. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Jean-Louis Berthaud? Nous avons, nous, cette conscience-là, donc nous sommes ceux qui devons faire ce sacrifice-là.
C'est un sacrifice, mais je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui supporteraient ce sacrifice.
Alors, c'est intéressant l'utilisation du mot sacrifice.
Oui, alors bon.
Parce qu'il y a des gens qui considèrent que c'est un sacrifice, d'autres qui pensent au contraire.
Ouais, comme le dit Gilles Pison, on peut déconseiller de faire zéro enfant. C'est quand même très agréable d'avoir un enfant. Ça procure des joies extraordinaires. Et puis,
Vous avez des enfants ou pas?
J'ai fait une fois des enfants, c'était des jumeaux. Coup de chance, d'une certaine façon. Et donc, pour en revenir à votre question, il ne faut pas le considérer comme un sacrifice, mais c'est comme une ligne directrice qui est d'ailleurs qui est déjà en place au Japon, en Allemagne, en Espagne, en Italie. La France est un peu à la traîne dans ce mouvement, mais elle est en train de rejoindre les pays. Et si on changeait la politique nataliste, c'est-à-dire changer les allocations familiales, qui pèsent très lourd d'ailleurs, et vous savez qu'on paye zéro pour le premier enfant pour l'instant, ce qui est quand même scandaleux. Donc il faudrait augmenter les allocations familiales pour le premier et les réduire pour le troisième, quatrième, etc. Donc, sacrifice, oui, un petit peu, mais franchement parlant, je crois que ce qu'il faut faire surtout, c'est aider les pays africains à mettre en place des politiques de planning familial.
Tiens, voilà cette question de Pierre que je soumets à votre sagacité. J'ai vu que vous vouliez intervenir, Gilles Pison. Oui, question de Claire, juste avant. Pourquoi l'ONU ne donnerait pas des quotas d'enfants par famille en fonction de l'empreinte écologique de chaque pays ou continent? Forcément, c'est une question qui me terrorise, moi, personnellement. Gilles Pison, vous aussi ou pas?
Des quotas?
Ouais.
Alors,
en fonction de l'empreinte écologique de chaque pays ou continent.
On est dans des pays en Europe où chacun est libre d'organiser sa vie. Pour l'instant, on est libre d'avoir des enfants ou de pas en avoir. Il y a des pays où c'est moins facile de réaliser. Vous avez parlé de la Chine qui maintenant fait pression pour que les jeunes couples aient des enfants et le gouvernement souhaiterait qu'il y ait plus d'enfants. Peut-être qu'on va venir vers une politique coercitive. Ceux qui n'auront pas d'enfants vont peut-être être taxés, comme autrefois c'était l'inverse. Nous, on n'est pas dans ce cas de figure. Mon collègue Berthaud explique que la politique nataliste française, il faut l'arrêter et tout. Alors moi, je suis d'accord, donner une allocation dès le premier enfant, c'est sûr que c'est une mesure élémentaire tous les pays européens, hors la France, font ça. C'est bizarre qu'il n'y ait pas cette allocation. Supprimer l'allocation à partir ou la réduire à partir du troisième enfant, là je ne suis pas de votre avis. Parce que quel va être le résultat? Ça ne va pas changer beaucoup le nombre de naissances. En revanche, ça va mettre en difficulté des familles qui sont déjà pauvres, modestes, et pour qui les allocations, ça compte. Pour vous, ça compte rien, comme pour moi, et pour un certain nombre de gens. Et donc, mais il y a des personnes, notamment des femmes qui élèvent leurs enfants seules, ça compte. Et elles, ça ne va pas changer beaucoup le nombre d'enfants qu'elles vont avoir. Par contre, ça va les mettre encore plus dans la difficulté. Alors, mais... Donc, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas en supprimant les allocations à partir du troisième enfant
mais dans cette réforme,
qu'on va
il faudrait
sauver
la
planète.
Dans cette réforme, il faudrait naturellement l'appliquer qu'au futur, et pas au passé, c'est-à-dire pas aux enfants qui sont déjà là, naturellement, pour ce genre de réforme.
Il nous reste la question de Pauline qu'on n'a pas le temps de prendre parce qu'il nous reste à peine une minute, mais que je vais prendre dans ma voix, Pauline, pardonnez-moi. Faire des enfants, c'est aussi les sensibiliser à la cause écologique et c'est aussi une bonne chose à faire. On s'est posé cette question avant de faire nos enfants. Je ne sais pas combien d'enfants à Pauline, en tout cas c'est au pluriel. Et désormais, elle a trois enfants, me dit-on. Désormais, j'allais dire, c'est dans le package, en fait. Gilles Pison et Jean-Louis Berthaud, pareil, en fait, tous les deux.
Ah, oui.
C'est dans le package, faire des enfants, d'accord, mais il y a aussi une responsabilité à avoir désormais dans leur éducation.
De façon plus responsable que nous. Nous nous sommes comportés et donc c'est à la fois les parents et les enfants et moi
alors
mon espoir c'est que les
que
jeunes
fait,
sont beaucoup plus conscients des problèmes de climat, de biodiversité que nous ne le sommes et ils sont beaucoup plus prêts à tout de suite faire quelque chose dans leur mode de vie.
Et sauf qu'ils sont obligés ce que nous n'avons pas été obligés de faire et nous le regrettons aujourd'hui et nous leur refilons un peu la patate chaude aussi quand même. Merci beaucoup, merci à tous pour ce débat passionnant, merci à vous nombreux appels et portez-vous bien.